Bonjour, bonjour tout le monde. Il est midi, on est en direct sur Radio Galère 88.4 et c'est l'heure d'un lundi avec CQFD. Ouais.
Salut Radio Galère.
Alors aujourd'hui on est en compagnie du coup de Neil, de Gaël et de Sonia.
Salut.
Salut.
Et on va parler de ce CQFD de ce mois-ci. Alors on a un dossier thématique sur le refus de maternité que nous présentera Gaël pendant l'émission. Tu reviendras sur les raisons de ce refus, sur les autres manières d'appréhender la parentalité. Voilà, je te laisserai développer tout ça pendant l'émission. Ensuite, on commencera par un article sur la flottille qui était présente à l'Estac et qui est partie depuis maintenant 2 semaines du port. Donc voilà, Neil pourra nous parler un peu de cette flottille et on ira voir ce qui se passe en Argentine.
Exactement.
Voilà, en termes de répression.
Enfin, on n'ira pas physiquement.
Physiquement, non, mais
pas aujourd'hui,
spirituellement. En tout cas. Ouais. Et peut-être qu'à la fin, on aura des petites infos sur le prochain numéro.
On espère.
Alors, le 4 avril, des bateaux du Southern Madeleine, la flottille qui se rend à Gaza pour tenter de briser le blocus imposé par Israël, est partie de Marseille. Alors, ces bateaux, ils étaient là depuis un peu plus d'un mois à l'Estac pour être préparés. Et vous êtes allé les voir, vous avez suivi, vous, cette préparation avec CQFD ?
Ouais, c'est ça, on y est allé plusieurs fois, je crois, on y est allé 4 ou 5 fois. On a même fait un reportage vidéo, le premier reportage vidéo de l'histoire de CQFD.
À retrouver sur notre chaîne CQFD mensuelle, je crois.
Ouais.
CQFD journal.
On peut dire qu'elle a fait un buzz avec au moins 270 vues ou quelque chose comme ça.
Ouais.
C'est une franche réussite. Ouais, non, mais du coup, on a donc dans la page 3 là, du numéro du mois d'avril, donc qui est déjà en kiosque, on raconte un peu toute cette préparation. Puisque les bateaux sont arrivés donc début mars, et en fait pendant des semaines, on avait plusieurs centaines de personnes qui sont passées à l'Estac, certains pour un coup de main ponctuel de quelques heures, une journée, une demi-journée, et d'autres sont restés beaucoup plus longtemps, une semaine, 2 semaines, parfois le mois entier, à dormir soit dans la cale des bateaux, soit chez des habitants de l'Estac qui les hébergeaient, soit dans leur camion pour ceux qui sont des routards, et voilà.
Et concrètement, sur place, ils faisaient quoi ?
Donc en fait, ils remettaient les bateaux en état. Il faut savoir qu'un voilier d'occasion, ça coûte rapidement plusieurs dizaines de milliers d'euros. J'ai fait un petit tour ce matin sur Le Bon Coin pour voir un peu ce qui était disponible et faire mon petit shopping. Et ça peut aller jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros, en fait. Et sauf que eux, ils ont un budget, pour le coup, qui est très limité. Enfin, c'était quand même plusieurs centaines de milliers d'euros qu'ils avaient en tout, mais pour faire une flotte entière, ça fait que par bateau, ils avaient entre 5 et 25 000 euros, quoi. C'était le max qui s'était fixé, 25 000 euros. Et donc, ce qui fait que quand on achète un voilier à 25 000 euros, il y a pas mal de choses à faire dessus. Nous, très concrètement, quand on y allait, il y avait par exemple des personnes qui cousaient des voiles, soit à la main ou avec des machines à coudre. Il y avait des personnes qui s'occupaient de faire les joints sur le pont des bateaux, parce qu'il y avait certains problèmes d'étanchéité qu'ils ont remarqué les jours de pluie, et donc on avait des infiltrations d'eau sur le pont, quoi, qui tombaient par les hublots, et donc il y avait tout un truc comme ça, ou avec des pistolets à mastic, ils refaisaient la jointure. Puis après, il y avait des personnes qui faisaient de la soudure, tout un tas de choses qu'on peut imaginer, quoi, à réparer sur un bateau.
Ok, mais du coup, c'est plutôt technique quand même. Et ces gens-là, c'était des marins, ils étaient du milieu de la mer, ils avaient des connaissances avant ça.
Alors pas tous, non. Loin de là, je dirais qu'ils étaient même une minorité à être marins. Il y en avait quand même, et la plupart d'ailleurs venaient, enfin la plupart, en tout cas un certain nombre m'ont dit qu'ils venaient de Bretagne. Il y avait une grosse connexion bretonne qui envahissait
Ils sont
les côtes.
partout.
Ouais, bah, ils sont même dans ce studio, hein, je crois.
Coucou.
Et il y a quelque chose qui revenait assez souvent dans les échanges en fait avec ces marins, c'est que pour eux c'était assez exceptionnel de pouvoir utiliser en fait leurs compétences professionnelles au profit d'une cause politique. Donc ils me disaient que le monde maritime est de manière générale assez peu politisé, notamment les matelots. Un facteur d'explication que eux en tout cas avançaient, bon c'est un peu leur analyse comme ça, mais c'est que comme il y a des grosses périodes qui sont passées en dehors de la Terre, en fait. Il y a un sentiment d'être assez coupé du monde et des affaires du monde, et qui peut faire qu'ils ne se sentent pas forcément concernés. En tout cas, c'était un des facteurs explicatifs. Et aussi, en fait, ils étaient assez nombreux à me dire que le secteur maritime, c'est une industrie qui est très destructrice. Donc à la fois de l'environnement, on le sait, hein, via la pêche ou les croisières ou même le transport de marchandises. Ensuite, ils insistaient sur le fait que c'était un secteur qui était quand même réservé à une élite économique. C'est une pratique qui est très située, quoi, de
Oui,
faire
c'est
de la
pas
voile.
n'importe qui peut se le permettre.
Ouais. Même les pédalos, c'est 25 € la journée.
Oui, voilà.
Et que l'organisation à bord, de manière générale, sur un bateau, elle est très hiérarchique, très, très verticale et très patriarcale aussi. Et donc, en fait, en miroir, le fonctionnement au sein de la flottille du Southern Madeleine sur Gaza, ça fonctionnait d'une manière précisément inverse. Là où le secteur maritime produit de la domination, le Southern Madeleine, c'est plutôt un vecteur d'émancipation, y compris pour les gens qui y participent. Et c'était visible par exemple par le fait que beaucoup de marins étaient des femmes, donc des skippeuses, beaucoup plus en proportion que dans le reste du secteur naval.
Ok, et là, cette flottille là qui est partie de l'Estaque il y a 2 semaines, ils en sont où en ce moment?
Bah alors ils se rejoignent toutes et tous en Sicile parce qu'il y a des départs de plusieurs ports d'Europe, celui de Barcelone par exemple, des ports en Grèce, le port de Tunis. Et donc ils se retrouvent en fait en Sicile pour se former, puisqu'il y en a qui ne sont pas navigateurs ou navigatrices, et donc c'est un enjeu de se former à la navigation, aux bases. De ce qu'il faut savoir à bord d'un bateau. Et donc un marin qui était assez expérimenté, lui pour le coup, et qui passait donc 6 mois de l'année à bord de navire et les 6 autres mois de l'année à militer. Lui, il me disait qu'un des gros enjeux, c'était d'apprendre à garder son calme. Donc, ne pas courir sur un bateau, ne pas crier, éviter la communication violente. En fait, éviter tout ce qui peut rajouter du stress dans un petit espace confiné où il y a déjà le risque de subir une attaque de l'armée israélienne. Donc, en fait, c'est éviter de rajouter du stress sur le stress, et que ça, c'est vraiment quelque chose de très important sur lequel ils insistent au cours de leur formation.
Ok. Et ils vont être formés aussi pour partir, briser ce blocus. C'est pas n'importe quoi comme action. Il y a des risques à faire ça.
Ouais, c'est ça. Après, le risque, ils prennent en compte, hein. Ils essayent de le prendre en compte dans leur stratégie qu'ils mènent. Mais c'est vrai qu'il y a déjà eu des morts sur une flottille en 2010 où ils avaient subi des frappes de l'armée israélienne. Puis cette fois, c'est moins des figures médiatiques que lorsque Rima Hassan, Greta Thunberg et d'autres personnes étaient parties à l'été dernier. Donc je ne sais pas trop dans quelle mesure ça peut jouer, mais j'imagine que quand même l'aura internationale qu'on a un impact sur la réponse que va fournir Israël. Et donc eux, ils se présentent comme une mission humanitaire parce qu'ils apportent à bord un certain nombre de matériel médical ou autre, mais en fait ça garantit pas, enfin ça prémunit pas du risque d'attaque. Par exemple là, ce week-end, Il y a deux chauffeurs de camions qui travaillaient pour UNICEF qui ont été tués par l'armée israélienne alors qu'ils apportaient de l'eau à un point de ravitaillement au nord de Gaza. Donc en fait, être un travailleur humanitaire ou en tout cas faire partie d'une mission humanitaire, ça garantit en rien. Enfin, c'est pas une garantie de sécurité, quoi.
Voilà.
Sur le risque, pendant la préparation, on a discuté beaucoup avec les gens et on leur demandait « alors, toi, tu pars ?» Et on sentait qu'ils étaient un peu... toutes les décisions n'étaient pas encore prises et qu'ils étaient assez intimidés. Et je ne sais pas si vous avez ressenti ça, vous aussi, mais au départ de la flottille, il y avait aussi ce stress des gens, du coup, qui, pour le coup, eux, avaient pris la décision de partir, de se dire « bon, c'est quand même pas rien ce qu'on est en train de faire ». Donc c'était quand même beau et émouvant, mais on sentait un petit pincement de « ça y est, c'est le départ, quoi ».
Ouais, tu étais, toi, au départ ?
Ouais. Je sais pas si t'as vu ça, toi aussi, mais...
Je suis pas resté longtemps, j'ai écouté vite fait les prises de parole, mais j'allais faire autre chose.
Non, ça se sentait quand même qu'ils allaient sur... Ils allaient sur une mission où il y avait des risques et il ne fallait pas y aller de manière inconsidérée. Voilà, c'est bien d'en parler. Donc, allez lire l'article dans CQFD. Allez voir aussi la vidéo, du coup, le petit documentaire que vous avez fait. Si vous pouvez rappeler le nom de la chaîne.
CQFD Journal, je crois, et c'est sur YouTube.
Voilà. Et sur Radio Galère aussi, on parle de la flottille, on les suit, avec Une heure en Palestine. Voilà, c'est tous les lundis de 11h à 12h. C'est juste avant lundi avec CQFD d'ailleurs. Donc, si vous voulez vous tenir informé sur la flottille, écoutez aussi Radio Galère.
Je m'appelle Natalia. Il me dit je t'aime, il me parle de familia. Il me dit de la marijuana. Si tu veux du stress avec lui, viens voir, oui, y en a. Mais on m'appelle Madame Caillou, cœur rebelle et sans cahier. Ça compte pas belle, mais sans cahier. Je l'excès déjà sans carrière. Ce type non, bah ouais, c'est carré. Comme maman, j'aime les pierres taillées.
La musique qu'on vient d'écouter, c'est Théodora et le titre c'est Demito, où elle parle d'un avortement, en tout cas du refus d'avoir été mère, enfin d'être mère à un moment donné de sa vie. Et donc, c'est nous fait notre transition avec le prochain sujet.
Bien pauvre nation que celle qui, comme culpabilisée d'elle-même, travaille aveuglément à sa régression.
Triste humanité que celle qui n'espère plus dans ses entrailles le cri de la naissance.
Égoïsme galopant, individualisme forcené, peur de l'amour. Eh bien, je m'adresse à ceux qui n'ont pas d'enfants et qui sont en âge de les avoir. Faites-en.
Voilà ce qu'on a pu entendre ou lire sur Le Figaro ou CNews en ce début d'année 2026.
Mais pourquoi est-ce qu'on les a autant entendu pleurer?
Parce qu'en fait, en 2025, il y a eu plus de morts que de naissances. Donc, il nous manque 6000 bébés pour conclure l'exercice 2025.
Mais alors, pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus de femmes qui renoncent à la maternité?
Parce que nous, on pense que le féminisme du XXe siècle a pas mal battu en brèche la famille traditionnelle telle qu'on la conçoit en Europe occidentale depuis longtemps, notamment avec le droit à l'avortement et celui à la contraception. Et que ce chemin faisant, en fait, elles ont tiré les fils d'une pelote qui finit par complètement se déployer et que finalement MeToo et MeToo inceste sont arrivés en ce début du 21e siècle et que ces mouvements finalement ils ont montré les dysfonctionnements et les violences en général mais aussi les violences intrafamiliales notamment dans le cas de MeToo inceste. Et que donc du coup, la famille traditionnelle, elle a été, pas mal écornée ces derniers temps. On est allé voir du côté de l'anthropologie et de la sociologie, notamment avec Anne Cadoret, qui nous explique que finalement, il y a une différence à faire entre géniteurs et parents. La différence, c'est que déjà géniteur, ça recouvre l'aspect biologique et qu'en fait un parent, c'est pas seulement un géniteur, mais aussi quelqu'un qui élève, qui soigne, qui s'occupe en fait des enfants et que ça c'est foncièrement politique et social. Il y a plusieurs façons finalement d'être parent et elle le rappelle, il y a différents montages familiaux tels que l'adoption, la famille recomposée ou alors les parents qui ont utilisé l'insémination artificielle. Et dans le cas des couples hétéros, la fiction filiative finalement elle peut encore tenir, mais dans les couples homo, c'est un peu plus compliqué de faire tenir cette fiction, que ça, c'est tout de suite beaucoup moins crédible et que donc montrer avec éclat que finalement la parentalité c'est pas qu'une question de biologie et qu'on peut se substituer en fait à un géniteur et tout en étant quand même parent.
Merci. Donc, dans ce dossier sur le refus de maternité, vous avez parlé avec des femmes, notamment vous avez trois témoignages de trois femmes différentes qui parlent, elles, de leur refus de maternité. Vous avez aussi une interview avec Anaïs Schenke, qui est autrice de la BD « Après, ce sera trop tard ». Donc voilà, l'autrice, elle voulait donner une autre image d'une femme qui n'a pas d'enfant, loin des clichés d'une femme à qui il manquerait quelque chose dans sa vie, qui se sentirait seule, voilà. Allez lire l'article et allez regarder la BD aussi si elle vous intéresse. Et autre article dans ce dossier, c'est sur la contraception définitive. Est-ce que tu veux nous en dire quelques mots?
Ouais, la contraception, la stérilisation, c'est concrètement deux choses. Soit c'est la ligature des trompes, donc ça consiste à empêcher les spermatozoïdes de rencontrer l'ovule, ou alors la salpingectomie. trompectomie, difficile à dire, mais il s'agit de retirer les trompes de Fallope, tout simplement. Et en fait, c'est autorisé depuis 2001 pour toutes les femmes. Avant, c'était juste pour les femmes qui, en fait, prenaient un risque quand elles étaient enceintes, un risque pour leur vie. Et donc, du coup, il fallait qu'elles soient stérilisées. Mais depuis 2001, c'est pour toutes les femmes. Mais le problème, c'est que, comme bien souvent, finalement, il y a un gatekeep des médecins qui font marcher une espèce de clause de conscience pour refuser l'autorisation de pratiquer cette opération. Et normalement, ils devraient renvoyer vers des confrères ou des consoeurs qui, eux, le pratiquent, mais en fait, ils ne le font pas du tout. Du coup, on allait interroger des femmes qui souhaitent faire cette opération ou qui l'ont fait. Elle nous explique que ça a été très compliqué, que c'était une démarche longue, qu'il a fallu souvent s'opposer aux médecins, qu'il a fallu aller chercher des informations ailleurs que dans un cabinet médical parce que elles n'en avaient pas. Donc comme bien souvent dans ces conditions-là, il y a des communautés qui se forment et puis qui s'informent, notamment sur Facebook ou sur des forums où en fait les femmes entre elles s'échangent les numéros de médecins qu'ils pratiquent et même font du soutien psychologique parce que souvent ces femmes-là en fait elles se retrouvent face à des médecins qui leur disent des trucs du genre mais vous n'aimez pas les hommes ou bien mais imaginez si vos enfants meurent, vous serez bien contente de pouvoir en refaire. Enfin, c'est quand même des phrases qui sont dures à entendre et qui peuvent créer de la détresse, tout simplement. Donc voilà, il y a cette belle solidarité qui se fait en ligne. Et donc du coup, on est allé parler avec tous ces gens et essayer de voir comment ils font pour s'organiser.
Voilà, un article très intéressant qui est clair sur des thématiques pas assez discutées. Donc allez le lire aussi.
Et moi, j'avais une petite question sur ce dossier. Tu parlais au début en introduction du rôle que joue le changement d'image de la famille traditionnelle sur la volonté ou non d'être mère. Est-ce que vous savez aussi quelle place peuvent prendre les conditions matérielles d'existence des mères ou des non-mères plutôt le fait que en fait il y ait plus, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y ait plus d'incertitude quant à l'avenir, potentiellement une situation vis-à-vis du travail plus ou moins précaire avec plus ou moins moins de stabilité qu'avant, un accès difficile à certaines crèches, donc c'est ce qui pose la question de comment en fait on peut ensuite comment on va vivre le futur enfant. Est-ce que ça c'est quelque chose?
Ouais, c'est quelque chose dont on parle au début du dossier, effectivement, c'est surtout la Gen Z qui est concernée par tout ça. En fait, là, on est en train de vivre des crises à répétition, une polycrise, même une crise du logement, une crise du chômage, puis une crise climatique. Oui. Donc c'est quelque chose qui forcément va faire que les couples ou même les femmes reculent devant l'idée de donner naissance à des enfants dans ces conditions-là. Oui, oui.
D'accord. Merci.
Et prochain article dont on va parler, c'est celui sur l'Argentine, où bizarrement, le président d'extrême droite, Javier Milei, fait de la répression des luttes. Donc, est-ce que tu peux un peu nous en parler, du coup ?
Ouais, alors, donc le 24 mars, il y a bientôt un mois, c'était les 50 ans de l'anniversaire. Ils appellent ça un anniversaire, comme s'ils le fêtaient, mais en fait, c'est un événement... triste, c'est le coup d'État du 24 mars 1976, où il y a une dictature civico-militaire parce qu'elle était composée de civils et donc de militaires, qui s'est mis en place après le coup d'État de Jorge Rafael Videla. Et
Donc c'était 7 ans de dictature, l'une des plus meurtrières d'Amérique latine, et notamment un nombre de disparus qui est extrêmement important. Le chiffre officiel des disparus, c'est 30 000. Et là, Javier Milei, c'est le premier président depuis le retour à la démocratie en 1983 en Argentine, qui remet en cause ce chiffre officiel des disparus. Et donc, le 24 mars, il y avait cette commémoration de ce coup d'état militaire et qui, en fait, entrait en résonance avec la situation actuelle en Argentine, où il y a une attaque très forte de la part du gouvernement sur les droits des travailleurs et des travailleuses, avec notamment une loi de réforme du code du travail, qui s'appelle la loi XL, enfin elle était surnommée comme ça dans les médias en tout cas, et des points importants de cette loi, c'est que par exemple elle permet de travailler jusqu'à 12 heures par jour, ce qui fait beaucoup d'heures.
Oui.
Après, plus beaucoup d'heures pour dormir.
Ouais.
Et les heures supplémentaires sont supprimées. À la place, il y a un espèce de système de compensation négocié individuellement avec le patronat qui se met en place. Donc ça, on sait forcément ce que ça veut dire, parce qu'il n'y a pas de rapport d'égalité entre l'employeur et l'employé. Donc on peut imaginer comment ça va se passer. C'est un peu la même chose le même problème dans ce qui était la proposition de loi du gouvernement autour du 1er mai travaillé, où en fait ils disaient non, mais c'est à la bonne volonté c'est sur la base du volontariat, ils peuvent discuter avec leurs employeurs, mais en réalité, enfin ça marche pas comme ça. Et donc là, il y a cette réforme qui est passée au mois de février en Argentine, et donc elle a été votée au Sénat. Et c'était une véritable victoire en fait pour Milei, parce que c'est une des premières grosses réformes comme ça qu'il arrive à faire passer avec le vote du Congrès. Jusque-là, ça passait par d'autres mécanismes. Et donc, en fait, ce que ça montre, c'est que, alors que les commentateurs peuvent avoir l'impression qu'il est à chaque fois en perte de vitesse, qu'en fait, sa politique va montrer que ça ne marche pas et qu'on va se rendre compte et qu'en fait, il ne va pas pouvoir gouverner. En fait, depuis l'année dernière, où il y a eu les élections, il y a eu de nouvelles élections qu'il a remportées, où il a fait un très grand score. En fait, on voit que en Argentine, l'opposition est très faible, l'opposition à la fois parlementaire et également dans la rue, où le mouvement social a du mal à imposer leurs revendications, et ce qui s'explique aussi notamment par les mesures assez répressives du gouvernement contre les possibilités de se mobiliser dans la rue. Il y a une pratique qui était assez historique en Argentine qui s'appelle les piquetes, enfin les gens s'appelaient les piqueteros, qui pratiquaient le piquetes, c'est-à-dire aller dans la rue et bloquer des grands axes de communication. C'est quelque chose qui se fait beaucoup fait dans les années 90 en Argentine. Et donc là, il y a eu une loi spéciale après l'arrivée au gouvernement de Milei contre cette pratique qui la criminalise complètement.
Je ne sais pas si vous avez vu dernièrement, il y a David Lisnard, le maire de Cannes, qui s'est un peu inspiré de Javier Milei en broyant le code du travail. Lui, il n'a pas sorti la tronçonneuse, mais il a sorti la broyeuse. Il a broyé le code du travail sur l'Arc de Triomphe, pas très loin de l'Arc de Triomphe. Et c'était assez ridicule, quoi.
Maire de Cannes et peut-être futur président de la métropole ex-Marseille.
Ah ouais.
Qui est en tout cas le soutien de Benoît.
C'est pas le même. Ah bon, c'est le maire de Salon, ça c'est d'accord. Nicolas Hisnard.
Ah, il y a deux Hisnard. Ah, oui. On dit des fausses informations en direct.
J'avais vu, mais je suis allé vérifier, c'est pas le même.
Merci Carlo, enfin quelqu'un de sérieux autour de cette table.
On fait du fact-checking.
En tout cas, Cocorico, on a aussi notre Milei en France apparemment.
Fantastique.
Voilà. Super.
Il n'y a pas besoin de partir dans un autre continent pour voir des gens vouloir casser le code du travail et les droits des travailleurs et travailleuses.
Ça fait des frais des économies de voyage.
C'est sympa.
Et peut-être juste pour parler rapidement de ce qu'il va y avoir dans le prochain numéro, qui sort dans 2 semaines déjà, ça va vite. On va parler de la question de la transition énergétique. Enfin, il y a tout un dossier qui va être sur la question de l'énergie, parce que le gasoil, ça coûte cher.
cher, là, en ce moment.
Et du coup, c'est ce qui nous a fait vouloir faire un dossier sur ce thème. Voilà, donc j'en dis pas plus. C'est...
Mystère.
Voilà.
Eh ben, merci beaucoup, merci Nel, merci Gaël, merci Sonia.
Merci à toi Carlo, merci Sonia, merci Radio Galère pour l'invitation, on est toujours bien reçus.
C'est toujours avec plaisir et voilà, allez lire un lundi avec CQFD, oula. Écoutez un lundi avec CQFD et lisez le journal, allez voir les illustrations, voilà, il y a d'autres articles, un sur les roches blanches en dernière page, voilà, qui était intéressant, dont on n'a pas trop eu le temps de parler. Ouais. Mais allez le lire aussi. Et on se retrouve du coup le mois prochain pour le prochain numéro de CQFD. Et au revoir tout le monde.
Au revoir, à bientôt.